Belle journée en radio. Oh, mais belle journée sur Radio Chablais. Il est 6h, je ne sais plus parler. Cette matinée commence super bien et vous savez quoi? On est ensemble de 6h à 9h, on va se rattraper, ça va le faire.
Radio Chablais, suivez-nous. On vous suit.
Et on commence par le journal présenté par Valérie Favre. Bonjour Valérie.
Bonjour Isabra, bonjour à tous. La reconstruction du restaurant d'alpage La Tauvassière au-dessus de Morgin, touché par une avalanche cet hiver, débute. La partie historique qui datait de 1910 s'est écroulée et abritait notamment la cuisine. Emmanuel et Joanie Rémermet, locataires du lieu propriété de la bourgeoisie de Montet, ont mis à l'enquête une reconstruction à l'identique et espèrent pouvoir mener à bien les travaux d'ici septembre avec l'objectif d'une réouverture à l'été 2027. Le couple n'a pas constaté immédiatement l'importance des dégâts cachés par la neige. Emmanuel Rémermet.
On est arrivé sur place deux jours après, on a pu sauver deux trois combines et puis on a couvert une partie du toit avec une bâche pour préserver ce qui était pas encore abîmé. Et puis ben là, il y avait encore entre 2 mètres et 2 mètres 50 de neige autour et dans le chalet. Une partie de l'avalanche, une partie de neige tombée. Et puis ben là, on était obligé d'attendre que la neige fonde pour voir si les planchers et tout ça avaient résisté. Puis en fait, non, les murs en tombant avaient vraiment tout cassé. Donc les planchers de l'étage supérieur s'étaient abattus sur le sol et puis il n'y avait plus grand chose à récupérer.
La partie alpage est par chance saine et sauve et les bêtes pourront monter début juin. Et la Tauvassière pourra fabriquer ses produits comme à l'accoutumée.
Rossinière a concrétisé hier sa transition écologique en inaugurant Carros.
Il s'agit d'une nouvelle centrale énergétique durable aux abords de la gare. Depuis fin 2025, la chaudière utilise des pellets de bois issus des 1000 hectares de forêt communale pour chauffer 30 bâtiments publics. La plus grande innovation de cette structure réside dans son financement autonome et coopératif conçu par l'entreprise Inergia. Concrètement, des caisses de pension ont investi 10,5 millions de francs dans la structure alors que la commune de Rossinière garantit la somme durant au moins 30 ans sans augmentation d'impôts. À terme, l'infrastructure garantira la souveraineté énergétique de la commune en fournissant une partie de la chaleur et l'électricité verte aux 500 habitants. Selon le syndic Jean-Pierre Neff, le projet profitera à toute la population.
On vit avec cette nature et on s'est rapidement rendu compte que cette matière première, il faut la valoriser. Et puis l'économie locale, vous savez qu'au Pays d'en Haut, on est quand même des régions, c'est pas toujours évident d'avoir une économie forte. Hein. Nous, on a envie de garder nos jeunes aussi, donc il faut créer des emplois. C'est là qu'on a vu qu'en transformant beaucoup plus la matière première locale sur la région, c'était un gros avantage. Parce qu'il faut savoir qu'en termes de bois, une énorme partie de nos bois qu'on exploite partent en dehors du Pays d'en Haut. Et le but, c'était vraiment d'essayer de redonner une économie locale plus importante, valoriser sur place le bois le plus possible.
Des propos recueillis par Anthony Dacampo. Alors que 80% de l'énergie utilisée aujourd'hui sur le sol vaudois est importée, le canton ambitionne de couvrir 30% de sa consommation grâce au chauffage à distance d'ici 2050.
Une cérémonie pour se retrouver et se souvenir un an après la catastrophe de Blatten.
500 personnes, d'anciens habitants mais aussi les autorités communales, cantonales et fédérales se sont retrouvées hier dans les décombres du village. Rayées de la carte à la suite de l'éboulement du glacier du Birch le 28 mai 2025. Un moment fort en émotion avec en point d'orgue les cloches qui ont sonné à la volée à 15h24 précise, l'heure de la catastrophe. Nous avons perdu notre village mais nous l'avons pas perdu notre cœur, a assuré très ému le président de Blatten, Mathias Bellwaldt. Présent quasiment incorpore, le conseil d'État valaisan a quant à lui promis que la catastrophe de Blatten ne serait pas oubliée. Pour la conseillère d'État Franziska Biner, la visite d'aujourd'hui a ravivé les souvenirs forts. La centriste a elle-même grandi en montagne, à Zermatt. Elle se sent donc particulièrement touchée par le sort des habitants de Blatten.
Moi, je suis aussi d'un village de montagne en fond de la vallée. C'est la même chose qu'en Blatten. Et puis si maintenant je sens qu'il leur manque vraiment leur village, mais ce n'est pas les choses matérielles, c'est l'histoire, c'est les générations qui ont vécu là, c'est l'église, c'est tout qui leur manque. Je peux sentir la même chose. Moi, je suis d'une famille qui était toujours de Zermatt, des générations à générations. On a vécu au même endroit. Les histoires, les traditions qui viennent avec, c'est beaucoup plus que des choses matérielles. Et c'est pour ça que j'ai vraiment la compassion avec les gens de Blatten.
Des propos recueillis par notre consoeur de Rhône FM, Sandrine Revert. Une fois encore, les autorités communales et cantonales se sont engagées à reconstruire le village de Blatten d'ici à 2030.
La transformation numérique représente un défi considérable pour notre société.
C'est la conclusion d'un programme de Fonds national suisse. Les résultats de 46 recherches ont été présentés hier à Berne. L'une d'elles s'intéresse au potentiel de la numérisation dans le processus démocratique. Les chercheurs ont créé des plateformes participatives en ligne lors d'une élection locale et d'une votation fédérale. La population a été invitée à donner son avis, faire des propositions et en débattre. Et l'intérêt a été très marqué dans presque toutes les catégories de population. Marlène Gerber, co-directrice de l'année politique suisse à l'Université de Berne.
On a constaté que les plus jeunes ont participé un peu moins. Et aussi les gens qui sont de l'âge 75 et plus ont participé moins. Ça reflète un peu la participation générale aux élections et aux votations, à ce qui concerne les jeunes et aussi les personnes avec niveau d'éducation plus bas. Là, on voit que aussi dans notre projet, le intérêt politique joue un rôle important.
Des propos recueillis par notre correspondante parlementaire Marie Vuillemier, l'ensemble des chercheurs constatent que la numérisation possède un énorme potentiel, mais il faut la cadrer. Ils proposent de bien informer toute la population, de faire participer les personnes concernées et de garantir la transparence de ces technologies. À l'étranger, une usine du fabricant de Sophie la Girafe a été perquisitionnée hier en Haute-Savoie dans une enquête pour tromperie ouverte depuis que le groupe est accusé de produire le célèbre jouet en Chine en l'estampillant Made in France, a annoncé le parquet d'Annecy. En automobile, la station de Lézin était le théâtre hier soir de la première épreuve du rallye du Chablais 2026. Devant les quelques centaines de personnes présentes, c'est le pilote belge Grégoire Münster qui a signé le meilleur chrono au terme d'une spéciale en boucle longue de 7 km. Au général, il devance les Valaisans Nicolas Lathion et Mike Coppens de quelques secondes. Côté chablaisien, le Belrin Johan Lefleur est 9e, les Vionnards Joël Rapa 14e, Michael Esteve de Dorena est 20e. Dans la catégorie des véhicules historiques, c'est Julien Camadonna qui mène le bal. La deuxième spéciale du rallye du Chablais commencera dès 8h sur les Hauts d'Olon. L'épreuve est à suivre en direct sur notre antenne dès midi.
L'équipe suisse de hockey sur glace l'a fait.
Elle a enfin battu la Suède dans un grand tournoi, quand ça compte. La Natui s'est imposée 3-1 hier soir à Zurich en quart de finale de son mondial et affrontera la Norvège en demi-finale demain à 15h20. Les Helvètes ont mérité leur succès contre le Trekkonor, mais le début du match a laissé penser que l'équipe nationale se casserait encore une fois les dents sur sa bête noire. Menée 1-0, elle s'est défendue avec succès pendant 5 minutes à 4-5 à la suite de l'expulsion de Dan Coogan. Puis Théo Rochette et ses coéquipiers ont su imposer leur supériorité. Les réactions de l'attaquant du Lausanne Hockey Club.
Bon, on savait que ça allait être un match difficile. Tout le monde sait à quoi s'attendre quand on nomme la Suède. Et puis on savait que c'était les quarts de finale, mais voilà, c'était vraiment d'approcher le match de la même façon. Je pense qu'on l'a bien fait pendant le tournoi. Et puis voilà, c'était de répéter ça.
Ce genre de match avec un but reçu, avec 5 minutes de pénalité, il aurait peut-être échappé à l'équipe de Suisse il y a quelques années.
C'est peut-être le box-play qui a fait la différence ce soir.
Ouais, le 5 minutes a changé le match, je pense.
Théo Rochette avec notre envoyé spécial à Zurich, Vincent Costet. Les Suisses qui ont eu la visite dans le vestiaire avant le match d'un certain Roger Federer. Dans l'autre demi-finale, le Canada qui a battu les États-Unis 4-0 retrouveront la Norvège qui s'est imposée 2-0 face à la Lettonie. Un match programmé à 20h demain.